Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ils sont des millions. Combien ? On ne sait pas exactement. On les appelle migrants. Venus de Somalie, du Soudan, du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de l'Érythrée, de Syrie, d'Irak, du Pakistan et d'ailleurs encore, ils ont une seule idée en tête, aller en Europe. Depuis quelques jours et plus que jamais, les migrants font la une des médias. Le projet de loi sur l'immigration qui sera présenté courant février au Conseil des ministres relance tous les questionnements soulevés par ces phénomènes migratoires, signe d'un désordre mondial. Au milieu des multiples prises de position, l'Église fait entendre sa voix. Prendre soin des plus faibles, cela fait partie de l'ADN de l'Église catholique et des chrétiens en général. Et si Mgr Pontier reconnaît que la France ne peut accueillir toute la misère du monde, il plaide pour un vrai dialogue entre l'État, les collectivités et les associations actives sur le terrain. L'Église lance donc une invitation au dialogue, à la concertation et émet plusieurs propositions concrètes. Des hommes et des femmes, chrétiens ou non, comme ceux de l'association Welcome, s'engagent et se mobilisent pour leur offrir cet accueil, cette hospitalité qui, de manière fondamentale, nous rattache à notre propre humanité.
Tu es, toi, tu es originaire de quelle ville ?
Du Sud.
Oui, d'une ville ou d'un village, du coup ?
C'est-à-dire c'est mon origine, mais je suis de Bangui, de la capitale.
D'accord,
Bangui,
ouais,
d'accord. Et ta famille, père et mère,
oui,
c'est le sud.
Non, ils sont venus.
Ah oui, tu m'as dit.
Le Congo, ta mère est du Congo aussi.
Bon, ma mère, pas totalement, il y a une partie, mais elle a son origine du Congo.
Et c'est son origine. Et la tribu, c'est quoi du coup ? C'est quoi la langue alors du coup ?
Quelle langue ?
Ta tribu, c'est quoi alors ?
C'est Yakuma.
Yakuma ?
Oui.
D'accord.
Et la langue ?
La langue, c'est quoi alors ? Le dialecte, hein.
C'est la même chose, Yakuma.
C'est Yakuma. Ouais.
Ah,
d'accord, ok.
Et le Sango, c'est pas...
Sango, c'est la langue nationale.
C'est la langue nationale.
Ah, d'accord. Voilà.
De jour en jour, je fais mon mal.
Oui.
Et le gros problème maintenant, c'est pas dans la capitale, mais c'est... dans les arrière-pays, dans les provinces, etc.
D'accord.
Dans la capitale, ça semble être calme.
Ouais.
Mais dans les arrière-pays, non. Donc sur 16 préfectures, il y en a tout ce qui est occupé par les groupes armés. Donc,
ah bon ? Ah oui, d'accord.
Ouais.
D'accord. On emprisonne les gens
Mais qu'est-ce qui...
Tout ce qu'on sait, c'est que c'est compliqué après pour comprendre les... Il faut lire les détails.
Il y a un seul thème qui est basé, qui est pointé comme la source de la crise, en disant que voilà, c'est une question d'intérêt religieux. Voilà.
Ah, d'accord.
Donc c'est une division des communautés, c'est des communautés chrétiennes et musulmanes.
Oui.
Et ça fait en sorte que c'est un peu compliqué parce que c'est pas facile pour éteindre cette crise.
Bon, on va bûcher Centrafrique alors.
Et on va apprendre beaucoup de choses sur la Centrafrique.
Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Ton prénom déjà. Les prénoms, il est courant là, en Centrafrique. Enfin, il y a beaucoup de Saint-Cyr.
Ah oui.
À Toulouse, à travers le réseau JRS Welcome, service jésuite aux réfugiés, une famille vient d'accueillir Saint-Cyr, un centrafricain demandeur d'asile.
Bon, merci.
Bonne soirée.
À bien
Tu as besoin de quoi que ce soit, je sais pas, qu'est-ce qui manque là ? Hein ? Ça va aller ? Ça va assez ?
C'est
les
bon,
seins ?
C'est bon.
Voilà. Ensuite, alors ça c'est tout, mais je peux pas les enlever, c'est tous les bouquins.
Ouais, attends, c'est pas grave.
Ça va ? Ouais. Alors regarde, ici je te montre où sont les serviettes. C'est là. T'as les serviettes. T'as du truc pour la douche, non ?
Ouais, je...
T'as l'un, du savon, tout ça, non ?
Oui.
Ben voilà. T'en as ? Ah ouais, d'accord. Non, regarde, c'est tout ça, magnifique.
Voilà.
C'est là, c'est le shampoing.
Voilà, il découvre les lieux, là.
Eh oui, bien sûr, oui. Oui, il faut. Alors, on a un peu préparé, mais il faut encore qu'on vide les étagères. Laisser un peu de place.
Alors les toilettes sont là, regarde, juste à côté, ici.
On va continuer à vivre comme on le fait. Voilà, parce qu'on a un appartement qui est assez grand, donc on a la possibilité d'accueillir. On a quand même l'espace pour s'organiser, mais ensuite, chacun va vaquer à ses occupations habituelles.
Oui. Le principe, c'est de continuer à vivre.
Ça, on n'aura aucun souci, parce que pour nous, on n'imagine pas les choses autrement.
Ça va faire partie de la vie quotidienne, de votre vie quotidienne.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, les moments d'échange, c'est essentiellement le moment du repas, le soir, en fin de journée. Voilà, chacun aura des choses à raconter sur sa journée. Et, en fait, le principe, c'est ça. C'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, je sais pas.
En tout cas, ça sent très bon.
Hein. Un taché de poulet, voilà. Bon. Je n'ai pas encore mis les épices, mais ouais. Je vais surtout mettre les épices. Là.
Mais
voilà.
Oui, et les carottes, parce que c'est le plus long à cuire.
Une ombre de nuages fait cesser le vent. L'espace d'une minute, la mer est un hôpital. On écoute les respirations des corps éparpillés, puis glisse le nuage et le vent recommence. Il pousse depuis l'Afrique, nous accompagne au nord, fils du soleil, père de la sécheresse.
Saint-Cyr va rester un mois dans cette famille, une autre l'accueillera ensuite, et puis une autre encore, et ainsi de suite pendant 6 mois. C'est le principe de l'association JRS Welcome. Jean-François Belloc, à Toulouse, l'un des responsables de Welcome, rencontré chez lui quelques jours plus tôt.
L'offre Welcome, c'est une offre d'hospitalité. On accueille un étranger dans des familles, précisément dans 6 familles successives, un mois par famille. Ce qu'on dit aux migrants et ce qu'on dit aux familles, si vous acceptez, c'est que vous êtes en mesure d'offrir l'hospitalité. Ça suppose que la famille qui accueille, elle est en confiance, quoi. Elle fait confiance au demandeur d'asile. Ça veut dire que, par exemple, elle lui laisse la clé. Il a une chambre séparée et que c'est ni un hôtel ni une prison. C'est qu'il y a quand même l'hospitalité, il y a du partage. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on accueille des demandeurs d'asile, des migrants. Alors on peut dire aussi que paradoxalement, on est plus dans la durée que dans l'urgence. On n'est ni le 115, on est là pour offrir un moment d'hospitalité qui dure au moins 6 mois. C'est un peu à géométrie variable, ça peut durer un peu plus, ça dépend des conditions de sortie du demandeur d'asile.
Janvier 2018. En France, les migrants, les demandeurs d'asile sont au cœur de l'actualité. Projet du gouvernement, déclaration et prise de position de la conférence des évêques qui, le 10 janvier dernier, lançait cet appel. Aujourd'hui, dans notre pays, la situation des migrants est très préoccupante. La société civile, les pouvoirs publics et la communauté chrétienne doivent trouver une réponse commune aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines. Des questionnements depuis longtemps au centre de la réflexion et de l'action de JRS Welcome. André Huisson, rencontré chez Jean-François Belloc, est responsable également à Toulouse de l'association.
En fait, on intervient dans Welcome, pas uniquement à cause de cette actualité, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit de l'Église, parce que Welcome a été créé il y a déjà plusieurs années, et en particulier à Toulouse depuis 3 ans, et donc on ne réagit pas en fonction d'une actualité, mais en fonction uniquement, mais énormément quand même, des cas qu'on peut être amené à connaître de personnes qui quittent leur pays, pas par plaisir, on ne quitte jamais son pays par plaisir, mais parce que s'ils restent sur place, ils risquent la prison, la torture ou la mort, ou le viol pour les femmes. Et donc ils reviennent en France pour essayer de rebondir et repartir sur une nouvelle vie. Donc ce n'est pas du tout lié à l'actualité, mais c'est quelque chose, un problème de fond. Et c'est vrai qu'on est, j'allais dire, ravi, c'est pas le mot qu'il faut, quand on commence à en parler dans les médias, de ce problème fondamental qui est l'accueil inconditionnel de tous ces demandeurs d'asile.
Accueil inconditionnel, qu'est-ce que vous mettez sur ce terme? Il y a certainement beaucoup de choses à dire.
Je voulais qu'on insister sur le fait qu'on accueille dans ces différentes familles des demandeurs d'asile, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur religion, musulman, bouddhiste, chrétien, évangéliste ou rien même, hein, quel que soit leur niveau social. Donc c'est ça qu'on appelle inconditionnel. Ce qui est important pour Welcome, ce n'est pas tant l'hébergement que la rencontre avec l'autre. Alors, l'hébergement, c'est vrai que l'hébergement d'urgence, ça peut être le 115 ou autre, mais Welcome est avant tout là pour permettre aux demandeurs d'asile de trouver une place pour se poser, sans avoir tous les jours à se poser la question qu'il est à Rhodes, où est-ce que je vais dormir ce soir. Mais les familles les accueillent, on l'accueille dans le cadre de Welcome pour au moins 6 mois, de façon à permettre aux demandeurs d'asile de souffler, de se poser, dans le but de ne pas s'endormir, mais de rebondir pour préparer son avenir. C'est ça qui est fondamental. C'est pas tant l'hébergement, qui n'est pas négligeable quand même, hein, que la possibilité offerte à ces demandeurs d'asile de reprendre espoir à l'aide des familles, à l'aide des tuteurs, des tutrices, pour rebondir, pour préparer leur avenir. Et dans ce cadre-là, j'insiste beaucoup sur la rencontre, et j'irais même jusqu'à dire jusqu'à la rencontre fraternelle. C'est pour ça que c'est important de partager avec le demandeur d'asile, que la famille partage avec le demandeur d'asile, des expériences qui peuvent être un plat cuisiné par le demandeur d'asile, qui peuvent être de discuter de la musique locale, de la culture, tout ce qu'on en veut. Comme disait Jean-François, on n'est pas un hôtel, on est là pour rendre l'hospitalité à quelqu'un qui n'est pas une statistique, mais qui est un homme, qui est une femme, qu'on a envie d'embrasser, qu'on apprécie beaucoup, qu'on découvre et qui nous surprend, qui me surprend très souvent par leur volonté de réagir et de se sortir de là où ils sont tombés.
Et puis, c'est surtout au moment de l'échange des familles. Faut voir avec vous quelle date.
Je suis arrivé en France depuis août 2016.
Saint-Cyr.
Et j'ai été hébergé pendant 6 mois. Et après cela, puisque c'était un cousin qui m'avait hébergé, et après 6 mois, il a changé d'appartement. Il a pris un appartement qui était petit, c'est-à-dire qui lui suffisait avec sa famille. Et il est question que je sois obligé de sortir, d'aller chercher un hébergement. J'ai pas pu, j'ai demandé un hébergement au niveau de CADA. J'ai pas pu avoir cet hébergement. Je suis obligé de me trouver dans la rue et j'habitais dans la rue. Et arrivé un moment, je suis tombé malade et je suis obligé de chercher certaines associations. Je suis allé premièrement au niveau de la Croix-Rouge, j'ai pas pu. On m'a montré une association secours catholique, je suis allé là-bas. Et de là-bas, que cette association m'a mis en contact avec l'association Welcome. Et un jour, cette association s'est présentée, ils m'ont montré les conditions, voilà, et j'ai accepté. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette famille.
Qu'est-ce que vous découvrez alors ? Ce que vous découvrez ?
C'est que j'ai découvert, c'est la différence entre ma culture et une autre culture qui est devant moi, parce que je n'ai jamais vivre avec... une autre personne qui se trouve en dehors de ma culture, et c'est la première fois de vivre avec une autre personne. Il y a une différence totale entre ma culture et celle que je suis en train de...
Et alors, c'est difficile ?
Non, c'est pas ce que j'attendais. Moi, je pensais au début que ça devrait être difficile, mais maintenant, le 2 jours que j'ai passé ici, je crois que c'est pas mal avec l'accueil et tout ça.
Et du côté des familles accueillantes, Chantal Belloc.
Ce que je peux dire, c'est que quand on a eu des réunions préparatoires à l'arrivée de Welcome à Toulouse, on s'est collectivement posé des questions pour savoir comment on allait faire ? Est-ce qu'on allait leur donner la clé ? Est-ce qu'ils pourraient nous dégrader des choses chez nous ? Est-ce qu'il faut changer nos habitudes de vie ? Toutes ces questions qui nous font rire maintenant, quoi. Parce qu'une fois qu'on passe à l'acte, c'était des peurs que beaucoup de personnes... C'est encore des questions qu'on peut nous poser, hein, quand les personnes savent qu'on accueille des demandeurs d'asile. Et bon, ce qu'on découvre, en fait, c'est qu'ils font souvent des parcours absolument hallucinants pour arriver jusque chez nous. Et on a bien compris qu'ils ne viennent pas pour nous voler ou même pour profiter de notre système social. Ou ils viennent pour sauver leur vie, ils viennent pour trouver une sécurité, une liberté de pensée, de parole. C'est surtout ça qui est important pour eux.
Et donc, vous les accueillez pour 6 mois. Et vous me dites que tous les mois, toutes les 4-5 semaines, ils changent de famille. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ce changement, de cette itinérance de famille, on pourrait dire ?
Oui, c'est un peu curieux. C'est une formule qui a été imaginée par les jésuites.
Jean-François Belloc.
Qui peut être paradoxal, mais qui a pas mal d'avantages. De demander à une famille d'accueillir quelqu'un, plutôt dans le genre « j'accueille un ami pendant un mois », bah, dès lors que la confiance est établie, c'est un investissement qui peut se comprendre. C'est pas comme dire « j'accueille quelqu'un sans limite de temps ». Donc l'investissement, il existe, mais il est faisable. Quoi. Donc ça, pour les familles, c'est quelque chose qui est apprécié. Alors après, il y a le côté attachement à la famille. Et donc, à moi, ça peut être effectivement, il y en a qui s'attachent pas mal à des familles, à des familles qu'il ne faudrait pas les laisser partir. Mais à moi, je pense que c'est la bonne taille. Si rester trop mal à la famille, ce serait plus compliqué après pour partir. Bon, d'un autre côté, c'est aussi un atout pour quelque chose de positif pour les demandeurs d'asile, parce que ça leur donne l'occasion de voir les différentes familles dans le françaises, et donc de faire l'expérience de la diversité des familles. Et la diversité est liée. Quoi.
Ce sont surtout des hommes que vous accueillez, des hommes célibataires ?
En fait, on accueille surtout que des personnes isolées, hommes ou femmes.
André Husson.
Mais je veux dire, heureusement, les femmes ont plus de, entre guillemets, chances de trouver une place dans des services officiels. Et le plus difficile, c'est pour des hommes de 20 à 35 ans, à peu près, hein, de trouver une place dans des services officiels. C'est pour ça que Welcome, ça c'est souvent le cas des jésuites, hein, on essaie d'aller là où personne ne va, et donc on choisit en priorité d'accueillir des hommes de 20 à 35 ans. Pour compléter ce que disait Jean-François aussi, le fait qu'on reste un mois dans une famille, au moins les familles savent à quoi elles s'engagent. Et aussi pour les demandeurs d'asile, ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas s'endormir. Et ils sont là pour préparer leur avenir. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que s'ils se disaient, bon, ça va, je suis sur 6 mois ou sur 1 an dans une famille, on va laisser courir et je ne ferai rien du tout. Tandis que c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pour les demandeurs d'asile difficile de changer de famille. C'est aussi difficile pour les familles de voir partir des amis. Mais ça empêche chacun de s'endormir en se disant « Attention, je ne suis pas encore sur cette auberge, j'ai encore du boulot à faire pour que mon avenir soit plus clair. »
C'est-à-dire que vous les accompagnez pendant leur démarche administrative, vous êtes là à côté d'eux au jour le jour ?
Alors, stricto sensu, ce n'est pas notre rôle. On est là pour les accueillir, pour offrir l'hospitalité. Mais malgré tout, on sait à peu près quelle démarche ils doivent faire. Aller voir leur courrier, se préoccuper des relations avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, d'aller apprendre éventuellement le français. Donc, ils sont peut-être à la recherche d'associations pour apprendre le français. Alors, c'est le genre d'association où on travaille en réseau avec plein d'autres. Et donc, par le bureau, par les tuteurs, on est amené à les conseiller. Mais... ce sont tous des gens majeurs, ils sont libres. On est là plutôt pour les accompagner. On n'est pas responsable de leur démarche administrative. Ils font ce qu'ils veulent.
Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je vous rappelle que l'État leur doit un CADA. Alors, ça arrive qu'en cours de parcours, on leur trouve un CADA. Et là, il faut sauter sur l'occasion. Donc, du jour au lendemain, ils partent dans un CADA. Alors, c'est un peu douloureux, mais enfin, c'est quand même une bonne chose pour eux. Ouais. Mais bon, le cas qui arrive le plus souvent, c'est qu'à la fin des 6 mois, il n'y ait pas de CADA. Alors, on essaye d'ajuster la durée du séjour. Et puis aussi, on se met en relation avec les services officiels pour essayer de les favoriser un petit peu pour avoir un CADA. Et sur la quarantaine de demandeurs d'asile qu'on a accueillis, il y en a peut-être depuis 3 ans, on en a peut-être un ou deux qui n'ont pas trouvé. Donc en général, ça se passe plutôt bien.
Et ces familles, comment les trouvez-vous ? Elles se présentent spontanément, c'est une histoire de réseau. Et puis, vous pouvez compter sur un nombre toujours à peu près égal de familles. Il y en a qui partent, il y en a qui arrêtent. Comment ça se passe ?
Bon, les familles, au début, on les a trouvées par le réseau jésuite. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés qui étaient à CVX. Et puis, petit à petit, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Il y a des gens qui veulent s'engager, puis qui finissent par trouver Welcome à Toulouse, et qui nous appellent. Et puis, on les rencontre et on voit si la mayonnaise prend, quoi. Récemment, on a trouvé un nouvel axe qui est celui des paroisses, où on présente nos actions dans les paroisses. On a le cas de deux paroisses, celle de Villeneuve-Tolosane et Castelginès, qui ont décidé de s'investir directement et donc qui accepte un demandeur d'asile et qui s'en occupe de A à Z. Donc ça, c'est aussi un axe là. Depuis 3 ans, on n'a pas arrêté d'augmenter la taille de la base, quoi. Aujourd'hui, on doit avoir entre 120 et 150 familles qui ont accueilli ou qui ont l'intention d'accueillir. Alors, il nous faut ça aussi, puisque je vous rappelle que pour accueillir un migrant, il nous faut 6 familles consécutives. Donc, avec des contraintes, tout le monde n'est pas prêt à accueillir en février, en juillet, en août. Et donc, on a des variations saisonnières, on a des contraintes, tout le monde n'est pas anglophone, si c'est un demandeur d'asile anglophone. Donc, tout ça fait pas mal de contraintes, ce qui fait qu'il y a des péréquations à résoudre. Et donc, pour avoir une dizaine de demandeurs d'asile accueillis à un instant donné, il nous faut une bonne centaine de familles. Bon, il se trouve qu'on en trouve et je pense qu'on est en ce moment en train de repartir là, sur en croissance de familles. Donc pour l'instant, ça va.
Je voudrais insister sur la bienveillance, sur l'ouverture de ces familles. Prenons un exemple. Il y a 2 mois, 1 mois, on nous a signalé la présence de 2 Tchétchènes. À Toulouse, Tchétchène qui ne parlait que russe. La seule langue dont il parlait, c'est le russe. Jean-François a fait un appel au peuple, donc a envoyé un mail aux différents, au réseau des familles, et plus de 20 familles ont dit « J'accepte d'héberger chez moi un russophone. » Je parle pas russe. Bon, certains disaient « Oui, au lycée, j'ai appris le russe, mais il y a 30 ans de ça, donc à part Svoboda et Bolchoï, je sais plus grand-chose. » Et d'autres ont dit « Je parle pas russe, mais tant pis, j'accepte quand même chez moi. » Pour vous dire un petit peu la qualité qui m'étonne toujours et qui m'émeuve un petit peu même de ces familles qui accueillent ouvertement comme ça, sans se poser de questions, en confiance.
Oui, puis comme vous dites, l'échange, le partage, la rencontre passe après autrement que par les mots. Vous parliez de fraternité tout à l'heure, Chantal. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui a bousculé votre vie, le fait d'accueillir des sans-papiers, enfin des migrants, des sans-papiers chez vous? Ça bouscule quand même, il faut un peu se déranger.
C'est vrai qu'on a essayé de ne pas se changer, mais on s'est changé quand même. Je pense que les accueils qu'on fait depuis 3 ans nous ont rendu moins crispés, plus... On s'est détendu vis-à-vis de l'étranger qu'on accueillait. Je crois que beaucoup de choses sont tombées, des préjugés, des idées toutes faites auxquelles on ne peut pas échapper. Je pense que ça nous a modifiés tous. C'est vrai qu'on... Et puis, on est rentrés dans une famille, quoi, dans une grande famille. Quand deux fois par an, il y a des réunions où toutes les familles sont réunies avec les demandeurs d'asile. Et un jour, quelqu'un a dit, on dirait une cousinade. Et en fait, chacun s'y est retrouvé dans ce terme parce que ça crée des liens, ça crée des liens familiaux, quoi. C'est vrai qu'il reste 6 mois dans le réseau, mais souvent, enfin, la plupart du temps, on ne perd pas le contact. Hein. Voilà, et puis les maisons restent ouvertes et parce qu'on a passé des bons moments ensemble, parce qu'on a partagé quelquefois des pleurs, mais souvent beaucoup de sourires, hein, et beaucoup de joie. Donc, ça se prolonge après.
Moi, j'ai vu sur le site, vous proposez des travaux de jardinage à Balma. C'est l'étape d'après?
Oui, on parlait de cousinade, mais aussi, on peut parler de communauté welcome, quoi. Et d'ailleurs, qui va au-delà des 6 mois. Ceux du début, on les fréquente encore. Et donc, cette communauté, on a le souci de la faire vivre. Et puis aussi, que les demandeurs d'asile puissent se rencontrer. Donc, on cherche des activités qui s'inscrivent un peu dans le temps. Donc, la première à laquelle on a pensé, ce sont les jardins, parce que le jardin, ça a une relation avec le temps, quoi. Et depuis un an, on dispose d'un terrain à côté du métro, là, de... à côté d'Auchan. Là, de, et donc, c'est l'occasion pour les migrants de venir jardiner, désherber, et donc de passer du temps ensemble. Et alors, bon, ça démarre, mais il faut qu'on le développe un petit peu, quoi. Mais il y a d'autres activités qu'on essaye de lancer, inspirées par ce qui se passe à Paris, où là, ils ont tellement de... Le marché, entre guillemets, n'est pas le même, donc ils ont pu développer plein d'activités, accompagner, faire des randos, aller à la montagne, aller jouer au foot, ou aller au théâtre, ou que sais-je. Bon, à Toulouse, on démarre, mais on va le faire.
Nous sommes parfaitement conscients que ce que nous faisons est une toute petite goutte d'eau qui ne peut prétendre résoudre quoi que ce soit au problème global des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des statistiques, mais des personnes avec un nom, une histoire, une famille restée là-bas, que nous regardons, que nous serrons dans nos bras et avec qui nous vivons une relation discrète, un échange fraternel et respectueux. Un témoignage à lire sur le site de Welcome Toulouse. Un immense merci aux acteurs de ce reportage, au cours duquel vous avez pu entendre des extraits musicaux du Pas du Chat Noir d'Anouar Brahem et de l'œuvre d'Alexandros Markeas, Migrant, interprétée par l'ensemble La Main Harmonique.